France Culture.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit Public. Aujourd'hui, la mort de Jean-Marie Le Pen rend-elle le RN plus fréquentable? Et Canada, Panama, Groenland, Trump bluffe-t-il? Nos débatteurs ce dimanche, Thomas Gobard, bonjour.
Bonjour Hervé Gardette.
Vous êtes historien, directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Votre dernier livre, L'accélération de l'histoire, vient d'être publié en poche. Ça, c'est le signe d'un grand succès. Anne-Lorraine Bujon, bonjour.
Bonjour.
Directrice de la rédaction de la revue Esprit, le dernier numéro, Que devient le travail ? Intellectuel, Bertrand Badie, bonjour.
Bonjour.
Professeur en relations internationales, votre dernier livre chez Flammarion, L'art de la paix. Et Marc Lazare, bonjour.
Bonjour.
Professeur émérite d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po et à l'Université Louis de Rome. Vous venez de publier un article dans la revue Cité, le RN et la démocratie. On va avoir l'occasion d'en parler très vite. Alors, dans la deuxième partie de l'émission, nous reviendrons sur les déclarations fracassantes de Donald Trump ces derniers jours, celui qui n'est pas encore officiellement en poste à la Maison-Blanche, envisage de faire main basse sur le Groenland, le canal de Panama et le Canada. Un projet impérialiste à prendre au sérieux, nous en débattrons. Mais pour commencer, donc, la disparition d'une des figures de la vie politique française sous la Ve République, Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front National, est mort mardi à l'âge de 96 ans.
Le mouvement Poujade a voulu précisément que je prenne à 27 ans la tête de sa liste dans le premier secteur de la Seine. Et par ma bouche, il vous dit... Par l'union, nous pouvons chasser tous les dirigeants corrompus et incapables. Dans la fraternité, nous reconstruirons ensemble une France libre, forte et jeune. Fraternellement unis, votez tous, Français, le 2 janvier pour les listes présentées par le mouvement Poujade.
C'était le dernier des Mohicans, l'ultime député de la 4e République à être encore de ce monde. Jean-Marie Le Pen, qui fut aussi un des plus jeunes élus de l'Assemblée nationale, est mort mardi, vous venez de l'entendre là, en 1955, en pleine campagne pour les législatives. Cette disparition est tout sauf inattendue, il avait 96 ans, c'est un âge respectable pour mourir. Mais cette disparition fait événement tant le fondateur du Front National aura marqué la vie politique des dernières décennies. Son parcours reste associé à un séisme électoral, celui du 21 avril 2002, lorsqu'il parvient à se qualifier pour le second tour de la présidentielle, à une série de provocations verbales qui lui valent d'être condamné à plusieurs reprises pour antisémitisme, apologie de crimes de guerre ou encore injures publiques, enfin à sa capacité à remettre l'extrême droite, si ce n'est au centre en tout cas, au cœur du jeu politique sous la Ve République. Son projet, la préférence nationale, avec comme corollaire la lutte contre l'immigration et la promotion des politiques sécuritaires, un socle idéologique qui aura permis à Jean-Marie Le Pen d'animer le débat public à partir des années 80, acceptant de se glisser avec complaisance dans le costume de pestiféré préféré des médias. Alors, depuis quelques années, le fondateur du FN était sur la touche, pas seulement à cause de son âge. En 2015, sa fille Marine décide de tuer le père en le faisant exclure du parti après une énième saillie antisémite. La dédiabolisation du Front National est à ce prix, même si les idées de base restent les mêmes. Cette dédiabolisation ou cette normalisation peuvent-elles progresser d'un cran supplémentaire avec la disparition de l'encombrant patriarche ? Le RN a fait l'objet, faut le rappeler, d'un front républicain lors des dernières législatives. Sans Jean-Marie Le Pen, le parti devient-il davantage fréquentable ? Marc Lazare, je commence avec vous. Peut-être d'abord, avant de voir les conséquences pour la place du RN dans la vie politique aujourd'hui, il faut quand même peut-être de parler de l'héritage. Enfin, en tout cas, quel est l'héritage laissé aujourd'hui par Jean-Marie Le Pen dans la vie politique ?
Je crois d'abord qu'il faut restituer un peu son parcours. On va parvenir dans le détail. Il y a eu beaucoup d'articles, beaucoup de publications à l'occasion du décès de Jean-Marie Le Pen. Je crois que si on essaye de raisonner froidement, d'un côté, Jean-Marie Le Pen s'inscrit dans une tradition politique française. Et c'est celle de l'extrême droite française, qui remonte au moins jusqu'au 19e siècle, en particulier avec les mouvements autour de personnalités comme Desroulettes, par exemple, ou Drummond, ou les ligues nationalistes de la fin du 19e siècle, autour d'un certain nombre de thématiques, notamment la priorité à la France. Le fameux slogan qui a d'ailleurs donné le titre d'un des livres de Pierre Birnbaum, La France aux Français. Cette idée qu'il y a une prééminence, justement, des Français. L'antisémitisme, par exemple, la sécurité aussi, qui était un élément, l'ordre, l'autorité, puis à l'époque, l'anti-parlementarisme. Il y a une tradition comme ça qui s'est instaurée en France à la fin du XIXe siècle, qui a été poursuivie, les ligues nationalistes de l'entre-deux-guerres, le régime de Vichy, le poujadisme d'une certaine façon, qui au départ est une révolte fiscale, mais qui prend une dimension politique qui s'inscrit aussi dans cette histoire de l'extrême droite.
Sauf que le poujadisme, ça aura été assez bref. Là, lui, il aura quand même réussi à installer durablement l'extrême droite, enfin, à la réinstaller dans le paysage politique.
J'allais y venir. Et je crois qu'il y a effectivement, avec Jean-Marie Le Pen, trois éléments qui font partie, justement, de ce que l'on peut appeler un héritage. Quels sont ces trois éléments? Le premier, c'est la longévité, effectivement, parce que le Front National est constitué en 1972. On va appeler un certain nombre de groupements d'extrême droite, vont appeler Jean-Marie Le Pen, qui au départ est un leader faible du Front National, qui va imposer son autorité, et donc qui va construire une formation qui va durer. Il y a eu des hauts et des bas électoraux, mais qui s'est inscrite durablement dans le paysage politique. Et ça, c'est une grande transformation, une des nouveautés par rapport à l'histoire de l'extrême droite, qui se manifestait jusqu'ici par des poussées, puis des disparitions, des résurgences ensuite. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est son obsession de créer un parti politique. Et le modèle qu'il avait, d'ailleurs, était le Parti communiste. Il était anticommuniste, mais son modèle, c'était l'organisation communiste. Il a même parfois rendu hommage à ses militants dévoués du Parti communiste qui vendaient l'humanité dimanche sur les marchés. Et donc, il a essayé de construire cette organisation verticale autour du chef, car c'est aussi un élément fondamental de l'héritage et de ce qu'a été le lepénisme. Et puis, le troisième élément, et ça, c'est un élément très important, c'est le fait qu'il a compris que pour que cette extrême droite puisse se perpétuer, il fallait qu'elle s'ajuste, qu'elle s'habitue à travailler dans la démocratie. Ça, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que c'est plus simplement justement l'anti-parlementarisme, la volonté classique de l'extrême droite de renverser la gueuse, la République, mais de se construire au sein de la République. Là, il y a une influence.
Ça faisait de lui un républicain, hein ?
Alors, un républicain ambivalent, très ambivalent, parce qu'en même temps, il y avait cette fidélité justement à Vichy, qu'il a toujours réclamé, dont il s'est toujours réclamé, donc par définition anti-républicain, mais c'est au moins respecter un certain nombre de procédures démocratiques, c'est renoncer en particulier à la violence, quand bien même il pouvait avoir des complaisances avec des groupuscules qui étaient à la frontière du Front National, et parfois où lui-même a exercé la violence. On se rappelle de cet épisode dans une campagne électorale à Mantes-la-Jolie, où il a agressé même physiquement, alors qu'il n'était pas tout jeune, mais retrouvé ses vieux réflexes de militant, une candidate socialiste. Mais cette idée qu'il faut ce type de formation doit évoluer dans la démocratie, il y a une inspiration. Et cette inspiration, elle vient d'Italie. C'est très important à comprendre cela, parce que le mouvement social italien, qui est donc la formation d'extrême droite, dirigée par un dirigeant qui avait lui-même appartenu à la République de Salo, c'est-à-dire l'ultime épisode du fascisme italien, Giorgio Almirante, avait compris qu'il fallait évoluer au sein du cadre démocratique. Il y a des relations très fortes, des fortes inspirations. Toute l'extrême droite européenne allait en Italie voir comment s'était développé ce mouvement social italien qui avait réussi dans les années 70 à arriver à peu près plus de 6%. Et d'ailleurs, la flamme tricolore du Front National est une directe inspiration du MSI. Et le remarquable travail de l'historienne Pauline Picot, qui a fait sa thèse là-dessus, montrait comment même le MSI a financé le Front National. Donc voilà, ces trois éléments, c'est longévité, organisation politique et travail au cœur des démocraties, non pas avec cette volonté de renverser la démocratie, c'est-à-dire de travailler au sein de la démocratie pour la transformer.
D'un mot encore, Marc Lazare, juste avant de poursuivre notre tour de table, vous parlez de l'inspiration, enfin de la façon dont l'extrême droite française et le Front National s'est inspiré de l'Italie. Est-ce qu'il y a eu aussi, à l'inverse, de la part de l'Italie, une inspiration puisée en France? Est-ce que Jean-Marie Le Pen, par exemple, a pu être une source d'inspiration, je ne sais pas moi, par exemple pour Giorgia Meloni?
Non. Non, pour Giorgia Meloni, qui elle a une autre histoire qui vient du fascisme, mais en revanche, le Front National a inspiré la Ligue qui au départ est une Ligue du Nord, un mouvement sécessionniste, enfin autonomiste et voire quasi-sécessionniste, qui était critique du Front National et qui à partir de 2013, avec Matteo Salvini qui prend sa direction, va s'inspirer directement du Front National. Et Jean-Marie Le Pen a eu un impact sur l'ensemble des extrêmes droites européennes. Donc voilà, c'est aussi tous ces éléments-là. Et juste pour terminer sur l'héritage, c'est très frappant de voir ce qui s'est passé au moment du décès, parce que on a une Marion Maréchal Le Pen qui a dit « Je continuerai complètement ce qu'a fait mon grand-père, clair et net. Une Marine Le Pen dont on peut remarquer la sobriété de son message, public en tout cas. On l'a vu très affecté au moment de l'enterrement de son père hier. Et en même temps, on voit que le Rassemblement National a exprimé une certaine fidélité, tout en, mais on va y revenir, peut-être, essayer de prendre un certain nombre de distances.
Anne-Laurène Bugeon, on voit à quel point aujourd'hui, et puis depuis plusieurs décennies maintenant, la question de l'immigration est un des éléments importants du débat public en France. Est-ce que ça, c'est à mettre au crédit de Jean-Marie Le Pen? Est-ce que c'est une forme de victoire politique qui est la sienne d'avoir réussi à imposer cette thématique-là?
Oui, je crois tout à fait. Et d'ailleurs, le rappel historique que vient de faire Marc Lazare est très utile pour se souvenir que la stratégie de normalisation, dédiabolisation, banalisation qu'on attribue très largement à Marine Le Pen, parce que c'est vrai qu'elle l'a beaucoup accentuée, et y compris en prenant soin de prendre ses distances avec les aspects les plus choquants du discours de son père, en réalité, elle date d'avant. Celle-ci aussi, elle est sans doute à mettre au crédit de Jean-Marie Le Pen, qui, assez tôt, des années, je sais pas, 80, a commencé à faire un pari qui ressemble à celui d'une union des droites, en espérant que sur des sujets comme le sujet de l'immigration, les obsessions du Front National pouvaient être en partie adoptées et reprises par la droite dite républicaine. Et donc oui, c'est une victoire symbolique, comme celle d'avoir réussi à imposer un certain nombre de termes, un langage qui est celui de l'extrême droite. Et donc au moment où on nous fait ce rappel historique, je pense que il est très utile pour bien se souvenir que tout cela vient des courants anti-Dreyfusards, des ligues des années 30, comme on vient de nous le dire, et de Vichy, qu'il y a de vraies continuités, mais que il y a aussi dans les continuités, moi je vois cette espèce de style paranoïaque en fait qui est commun là à Jean-Marie Le Pen, à sa fille et à beaucoup d'autres leaders d'extrême droite aujourd'hui, qui consiste à désigner à la fois des influences extérieures qui nous menacent, et donc on est toujours menacé d'être envahi, submergé et de perdre notre identité. Donc il y a un ennemi extérieur et puis il y a un ennemi intérieur qui est d'autant plus dangereux qu'il fait semblant d'être comme nous, donc il ferait semblant d'être français. Et donc évidemment, dans cette manière même d'imposer le terme d'immigré, il faut rappeler la propension du Front National à l'utiliser pour parler de Français qui sont souvent Français depuis deux ou trois générations, mais comme étant une menace centrale qui viendrait défaire notre société. Donc ça, malheureusement, on le tient de lui, et il y a une vraie continuité, voilà, comme le fait de placer finalement une acceptation, voire une nécessité des inégalités au centre de tout projet politique.
Est-ce que vous voyez la même continuité, Bertrand Badier? Est-ce que malgré tout, cette disparition de Jean-Marie Le Pen à l'âge de 96 ans, ça ne va pas permettre au Rassemblement National de peut-être parachever son processus de dédiabolisation, normalisation, c'est-à-dire ne plus avoir ce personnage qui restait peut-être encore quand même un personnage un peu encombrant pour le parti?
Non, je dirais pas du tout, et même au contraire. Je veux dire, la disparition de cet homme libère d'un souci et peut très bien conduire à la reprise sous une autre forme de cette longue histoire que Marc a conté tout à l'heure. Vous savez, les mots, le lexique changent, mais la grammaire ne change pas. Et c'est ça l'élément essentiel. Hein. Alors, évidemment, il faudrait peut-être repartir. C'est très dangereux de le faire, mais on ne peut pas s'en dispenser d'une définition de l'extrême droite. On peut considérer que l'extrême droite, c'est la forme radicalisée du conservatisme. On peut partir de cette idée-là. Et que un conservatisme radicalisé lui-même renvoie à quelque chose qui est extrêmement important dans la structuration du politique, qui est la peur. C'est-à-dire la peur du changement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la séquence historique qui est la nôtre, parce qu'elle ne se ressemble pas, l'extrême droite du 19e et du 20e siècle, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, cette séquence de l'extrême droite aujourd'hui, c'est une peur qui est essentiellement engendrée par la mondialisation. D'ailleurs, ce thème est obsessionnel, que ce soit chez la fille ou chez le père, on trouvait toujours cette dénonciation du cosmopolitisme et cette volonté de se replier sur un cadre national, et ce cadre national n'existant lui-même qu'à travers l'idée d'identité. C'est ce que vous disiez très justement, on peut être français de 3-4 générations, ce qui compte, c'est les fameuses racines, n'est-ce pas ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette idée, dans le contexte de mondialisation actuelle d'extrême conservatisme, renvoie à deux pistes, qui sont la piste de la fermeture et la piste de la verticalité. La piste de la fermeture, c'est le retour à l'entre-soi, la France aux Français. La piste de la verticalité, c'est de dire de manière plus ou moins explicite, on est supérieur aux autres. C'est-à-dire, on est au-dessus. C'est le réflexe civilisationnel. Nous incarnons une civilisation alors qu'en dessous, il y a les barbares. Alors, quand on est dans une logique de transition, évidemment, l'essentiel porte sur l'affirmation de la verticalité. C'est-à-dire, au moment où les autres sont encore là et vous menacent directement, eh ben, évidemment, il faut montrer qu'on est meilleur que les autres. Et c'est la raison pour laquelle la vieille génération, celle incarnée par Jean-Marie Le Pen, s'appuyait sur cette idée de verticalité. C'est la raison pour laquelle la thématique raciste était si forte et si spontanée dans sa bouche et rendait ce personnage particulièrement nauséabond. Aujourd'hui, qu'on a franchi cette étape, c'est plus l'élément de fermeture.
Pardonnez-moi, quand vous dites on a franchi cette étape, qu'est-ce que vous entendez par
là ? C'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette période de transition qui était celle de la sortie du modèle colonial, qui était celle de la dislocation de l'Empire. On est entré dans ce que d'aucuns appellent, à mon avis à tort, mais ça c'est un autre débat, le retour des États-nations. Et dans ce retour des États-nations, la priorité c'est plus tellement de montrer qu'un État-nation est supérieur à un autre, la priorité c'est de montrer que cet État entend se fermer, se clore, ce qui a abouti à un discours qui nous fait passer du racisme du père à la préférence nationale de la fille. Mais la grammaire reste exactement la même. Et quand, par exemple, Marine Le Pen dit à propos de Aya Nakamura que c'est humiliant pour la France que cette femme franco-malienne ait chanté lors de la journée inaugurale des Jeux Olympiques, ça en dit très très long. Considérer que quelqu'un qui n'est pas de pure racine puisse s'exprimer en France au moment d'un événement solennel est perçu comme humiliant. C'est-à-dire que l'idéologie de la fermeture, qui renvoie à cette idéologie terrible qui est celle de l'identitarisme et finalement du suprémacisme, alors je termine là-dessus, car je vois votre point levé, parce que ça rejoint parfaitement le trumpisme et tout ce que l'on est en train de découvrir d'un pays européen à l'autre. Faut pas oublier que le père, je voulais quand même placer ça, j'ai redécouvert récemment, traiter Mandela de terroriste. Quand Mandela est sorti de prison, il a dit « Oh là là, un terroriste !» Ce qui d'ailleurs en dit long sur la manière galvaudée dont on utilise le terme terroriste, mais ça c'est un autre débat. Et rappelez-vous aussi cette phrase sur Monseigneur Ebola qui allait régler les problèmes démographiques en Afrique. Donc vous voyez, c'est le racisme du père, la préférence nationale de la fille, mais c'est bien la même grammaire.
Son rôle à Jean-Marie Le Pen relève désormais du jugement de l'histoire. Ça, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron en réagissant à la disparition du fondateur du Front National. Qu'en pense justement l'historien que vous êtes, Thomas Gomard ? Je pense que ça n'appartient plus qu'à l'histoire aujourd'hui ?
Ah non, je pense pas du tout. Mais je pense que le point d'observation, ça devrait plutôt être la personnalité de l'actuel président du Rassemblement National, c'est-à-dire Jordan Bardella. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez rappelé dans votre introduction, en 2015, lorsque Jean-Marie Le Pen est écarté par sa fille des structures dirigeantes du parti, Jordan Bardella a 10 ans. Il en a aujourd'hui 29. Et je pense que quand on compare le début de la carrière politique de Jordan Bardella avec celle de Jean-Marie Le Pen, on a une sorte de raccourci de l'évolution de la société française en réalité. C'est-à-dire qu'on a un mode de sélection avec Jean-Marie Le Pen, pupille de la nation, qui a fini ses études de droit, qui a engagé volontaire en Indochine, rappelé en Algérie, qui a le parcours que l'on sait chez Poujade, plus jeune député de l'Assemblée nationale. Et puis chez Jordan Bardella, au fond, on a une sorte de sélection TikTok, c'est-à-dire une communication ultra maîtrisée là où l'ancêtre, dirais-je, avait une communication débridée, et un contraste qui me paraît tout à fait saisissant sur la personnalité. Jordan Bardella n'est pas baptisé. Jean-Marie Le Pen insistait beaucoup sur la dimension religieuse. Et je pense qu'on a un concentré, en regardant ces deux personnalités au même âge, encore une fois, de l'évolution de la société française. Le deuxième point, Bertrand rappelait les propos de Jean-Marie Le Pen à l'égard de Mandela. Il faut aussi rappeler qu'il avait eu un succès politique en étant reçu par Ronald Reagan. Ce qui lui avait permis d'avoir une certaine, dans une phase d'ascension politique, une certaine légitimité internationale qui lui manquait. Les contacts internationaux de Jean-Marie Le Pen sont un sujet en soi. Mais je pense que pourquoi je fais ce rappel, c'est qu'à mon avis, Bertrand finissait son intervention aussi avec ce terme, la vraie question à mon avis pour le Rassemblement National, c'est l'attitude à adopter par rapport au trumpisme. C'est ça, c'est là-dessus que ça va se jouer. Et Jordan Bardella a ceci de particulier qu'il évite les outrances verbales, mais qu'il tient un discours d'une certaine manière sur le plan économique, sur le plan social, un discours de dérégulation. Assez en rupture avec certaines parties d'ailleurs du Rassemblement National. Et je pense que la grande difficulté pour le Rassemblement National va être de se positionner par rapport au Trumpisme. Marine Le Pen a échoué à s'en rapprocher, et aujourd'hui le courant de l'extrême droite qui s'en rapproche le plus, qui s'y connecte directement, c'est Éric Zemmour et Sarah Knafow.
C'est raison pour laquelle d'ailleurs Éric Zemmour est invité à la cérémonie d'investiture de Donald Trump le 20 janvier prochain, et pas personne du Rassemblement National pour l'instant.
Pour l'instant. Voilà. Et donc, moi, j'insisterai davantage, parce qu'on est très obsédé par le clan Le Pen. D'une certaine manière, Jordan Bardella y appartient parce qu'il a vécu avec une petite fille de Jean-Marie Le Pen, ce qui explique son ascension très, très rapide. Mais je pense que la personnalité à suivre, c'est davantage désormais Jordan Bardella que la famille Le Pen.
Le Pen, ça reste d'ailleurs encore une marque aujourd'hui, Marc Lazare, une marque politique importante.
Oui, et compliquée. Et compliqué pour la fille Marine Le Pen, on l'a bien vu. Vous avez dit qu'elle avait tué son père politiquement en l'excluant du Rassemblement National pour les propos antisémites. D'ailleurs, c'est un élément important. Il y a quand même des éléments de différence. Hein. On a insisté sur les éléments de continuité, on a raison. Il y a des éléments de différence. Par exemple, il n'y a pas cette obsession de Jean-Marie Le Pen à revenir sur les questions de la Deuxième Guerre mondiale. Officiellement, le Rassemblement National n'est pas antisémite, même s'il y a eu un certain nombre de candidats au moment des élections législatives qui ont tenu de nouveau des propos antisémites. Il y a une différence sur les questions de politique économique. Et là, par rapport à ce que vous avez dit, Thomas Gomard, je suis à la fois... je pense que vous avez raison, vous pointez un désaccord qu'on sent, notamment quand on lit l'autobiographie de Jordan Bardella, ce que j'ai fait, où on voit qu'il y a un certain nombre d'éléments de réflexion sur les questions de libéralisme, qui n'est pas la position de Marine Le Pen, qui n'était pas la position de Marine Le Pen. Quand on voit le programme économique de Marine Le Pen, ça a été une transformation qui avait été un peu amorcée par Jean-Marie Le Pen en 2002, au moment du deuxième tour, le fameux discours aux mineurs, aux travailleurs, etc. Mais Jean-Marie Le Pen était sur des positions proches de Donald Reagan, mais la position officielle du Rassemblement National, c'est ce qu'on appelle en sciences politiques le social chauvinisme, c'est-à-dire la défense de l'État social réservé aux nationaux. Et ça, c'est un élément important, sans doute, de différenciation qui existe au sein du Rassemblement National, avec des stratégies à adopter. Sur la comparaison avec le Trumpisme, ça va être très intéressant, si j'ose dire, à observer, parce que le Trumpisme, on y reviendra, c'est la radicalisation permanente. Or, les formations, moi j'appelle national populiste en Europe, en particulier en France et en particulier en Italie, c'est au contraire cette politique dite, je mets des guillemets pour les auditeurs, de dédiabolisation, de respectabilité. Et donc il y a deux stratégies différentes. Est-ce que avec la victoire de Trump, Jordan Bardella va s'aligner sur les positions trumpiennes, ou est-ce qu'il va continuer cette position-là? Et puis il y a quand même une énorme transformation avec le Rassemblement National à l'occasion des récentes élections. C'est sa puissance électorale. Plus de 10 millions d'électeurs, ça n'a plus rien à voir, même avec les grands moments qu'a connu le Front National à l'époque de Jean-Marie Le Pen. C'est aujourd'hui un électorat catch-all. all party, comme on disait, c'est-à-dire un parti attrape tout. C'est absolument phénoménal. Tous nos collègues qui font des études de sociologie électorale du Rassemblement National l'ont montré. C'est-à-dire que ce parti, maintenant, est présent dans toutes les catégories sociales. Les deux seules catégories qui échappent pour le moment à sa capacité d'attraction, c'est d'une part les personnalités les plus, enfin, les personnes les plus diplômées et d'autre part les retraités ayant les plus hauts niveaux de revenus. Parce qu'une partie des retraités ont basculé aussi du côté du Rassemblement National. Donc, de ce point de vue-là, il y a une transformation sociologique fondamentale qui n'a plus rien à voir avec ce qu'a été le Front National.
Et Bertrand Badie et Thomas Gomard veulent réagir. Thomas.
Non, très rapidement, je pense que le grand sujet, à mon avis, dans le positionnement par rapport au trumpisme, c'est évidemment, on a bien compris qu'il voulait s'inspirer de la dimension du discours identitaire, mais c'est qui va capter la dimension futuriste du trumpisme. Et je pense qu'à ce petit jeu-là, ouais. Jordan Bardella est mieux parti que les autres.
Bertrand Badie.
Oui, deux petites choses dans le prolongement de ce que Marc a dit. La première, c'est que la mutation de la politique économique est très intéressante, effectivement, à suivre, et pas seulement en France, parce que, justement, ce que j'appelais tout à l'heure la fermeture est en train de prendre le dessus par rapport à la verticalité. C'est-à-dire que cette idée selon laquelle l'économie est d'abord là pour préserver un acquis et un bien national, donc on va pas hésiter à jouer la carte du protectionnisme, de la fermeture des frontières, etc., qui est beaucoup plus importante qu'une mondialisation qui, encore une fois, fait peur et ne s'accomplit plus, justement, dans ce néolibéralisme style école de Chicago, tel qu'on a pu le connaître. Le deuxième élément, c'est que il y a une dimension qu'on a un peu laissée de côté. Le Front National ne s'arrête pas au Front National. Ce qui, moi, me frappe, c'est la perméabilité, c'est la diffusion de ces idées Front National dans une partie de la droite. Hein. Je veux dire, la frontière entre M. Retailleau et le Front National est de plus en plus difficile à concevoir quand on entend le discours qui est tenu en matière de migration, où est véritablement la différence essentielle. Et je dirais même, ça va bien au-delà de la frange droite de la droite, qu'on retrouve aussi chez M. Ciotti, ça va même bien au-delà dans la reprise, alors probablement lié à un mercantilisme électoral, mais pas seulement du thème migratoire. Donc ce qui est important, c'est de voir derrière les mutations ou les non-mutations du Front National, des mutations profondes du marché politique français et de la société française.
Une dernière question, Anne-Lorraine Bujon. Je rappelais, aux dernières législatives, il y a eu un Front Républicain pour empêcher les candidats du Rassemblement National d'être élus à l'Assemblée nationale. Est-ce que la disparition de Jean-Marie Le Pen, ça ne fragilise pas encore un peu plus cette idée d'un Front Républicain? C'est-à-dire maintenant que les références à ces débordements à lui sont peut-être, vont devenir plus compliquées à faire. Est-ce que ça change quelque chose ou bien est-ce que ça ne change rien pour vous?
Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui caractérise le Rassemblement National actuel, comme beaucoup d'autres mouvements de la droite radicale, c'est de s'être réapproprié ce langage de la démocratie et de la République. Mais là, je crois qu'il y a vraiment un effort de dévoilement très important à faire. Qu'est-ce que ça veut dire d'être pro-démocrate si on ne retient de la démocratie que les élections et le fait majoritaire, mais pas, par exemple, le rôle des contre-pouvoirs, de l'indépendance des juges, de la presse. Je veux dire, il faut bien, c'est important de faire cet effort. Qu'est-ce que ça veut dire quand une Marine Le Pen se réclame de la démocratie et du peuple, ou de la République, si vous voulez, dans son adoption de thèmes dits républicains, par exemple. Enfin, voilà, il faut vraiment l'interroger. Liberté, égalité, fraternité, ah bon, je le disais, ce projet politique est foncièrement un projet de naturalisation des inégalités. Et donc, dans la période qui vient, moi, ce que je trouve très intéressant, et c'est tout à fait vrai sur ce rapport au trumpisme, c'est qu'il va y avoir un effet de dévoilement de ce discours soi-disant social adressé au peuple. Et ça aussi, ça vient de Jean-Marie Le Pen, le fait d'avoir toujours parlé du peuple, Le Pen, le peuple, et pris la défense des petits des sans grades. Mais quand le RN est en position de voter sur des mesures sociales et économiques soi-disant social, on voit bien qu'il ne le fait pas. Enfin, ça a été tout le débat sur le budget. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être républicain? Je crois qu'il faut vraiment se méfier de ces hommages rendus de manière rituelle, mais qui vident les principes républicains de leur sens.
Alors, vous avez évoqué à plusieurs reprises lors de cette discussion sur la disparition de Jean-Marie Le Pen, la figure de Donald Trump. C'est justement notre deuxième sujet.
France Culture. L'Esprit public. Hervé Gardette.
Envisagez-vous de recourir à la force militaire pour annexer le Canada ?
Non, la force économique, parce que le Canada et les États-Unis, ce serait vraiment quelque chose. On se débarrasserait de cette ligne tracée artificiellement et on regarderait à quoi ça ressemblerait. Et ce serait bien mieux pour la sécurité nationale. N'oubliez pas que nous protégeons essentiellement le Canada.
Pouvez-vous assurer au monde qu'en essayant de prendre le contrôle de ces zones, vous n'allez pas utiliser la coercition militaire ou économique ?
Vous parlez du Panama et du Groenland. Non, je ne peux pas vous l'assurer sur aucun des deux. Je peux dire ceci, ils sont très importants pour la sécurité économique.
Il n'est pas encore officiellement en poste que, déjà, le monde vacille sous l'effet de ces déclarations aussi tonitruantes que performatives. Donald Trump envisage rien de moins que de rattacher le Canada aux États-Unis pour en faire le 51e État, reprendre le contrôle du canal de Panama par lequel transite 5% du commerce mondial et s'approprier la plus grande île du monde, le Groenland, par la force si nécessaire. À chaque fois, le nouveau président des États-Unis développe ses arguments. Le Canada... Nous dépensons des milliards de dollars pour le défendre. Notre armée est à sa disposition. Il devrait être un État de l'Union. Le canal de Panama, des ouvriers américains ont payé de leur sang sa construction. Nous n'aurions jamais dû accepter de le rétrocéder. L'Amérique paye trop cher son utilisation. Le Groenland, enfin, dont il veut s'assurer le contrôle et la propriété pour des questions, dit-il, de sécurité nationale et de liberté à travers le monde. Alors, en d'autres temps, de telles annonces auraient été balayées d'un revers de main, car jugées trop loufoques. Ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. À la question « faut-il prendre au sérieux les velléités expansionnistes, voire impérialistes de Trump ?», beaucoup répondent que oui, il faut, même si pas grand monde n'imagine qu'il irait jusqu'à mobiliser l'armée pour mettre ses plans à exécution. Donald Trump, on le sait, est avant tout un homme d'affaires. Ce qui l'intéresse, c'est le business. Pour défendre ses intérêts économiques et commerciaux, il semble prêt à tout, y compris à exercer des pressions sur ses alliés. N'oublions pas que le Canada et le Groenland, propriété du Danemark, sont l'un et l'autre membres de l'OTAN. Objectif, assurer la prospérité aux Américains. Mais en lorgnant sur des routes commerciales telles que celles qui relient l'Atlantique au Pacifique, c'est le canal de Panama, et plus encore la prometteuse route du Nord dans l'Arctique, rendue de plus en plus navigable par le changement climatique, Trump vise aussi des nœuds géostratégiques majeurs qui intéressent aussi la Russie et la Chine. Alors est-ce à dire que ces menaces s'adressent moins à ses alliés qu'à ses adversaires ? Nous en discutons en compagnie de Marc Lazare, Bertrand Badie, Anne-Lorraine Bujon et Thomas Gomard. Thomas, je voudrais commencer peut-être par le Canada. Est-ce que Trump est sérieux quand il estime que, enfin quand il annonce qu'il ce serait bien de faire du Canada le 51e État des États-Unis ? Est-ce que c'est une idée d'ailleurs qui vient de nulle part ou est-ce qu'elle a peut-être un petit fondement historique ?
Moi, je pense qu'il faut prendre ça très au sérieux. Alors, pas retracer l'histoire des relations entre le Canada et les États-Unis parce que c'est une histoire assez compliquée à démêler. Je vois, si vous voulez, ces déclarations, celles sur le Canada, celles sur le Groenland, celles sur le Panama. Je fais une petite parenthèse, on a passé sous silence cette semaine sa déclaration également sur le Moyen-Orient, dans la même conférence de presse, où il disait que ça allait être l'enfer au Moyen-Orient si les otages n'étaient pas libérés avant son investiture, ce qui, à mon avis, est un point à garder à l'esprit. Si vous voulez, ces déclarations... Je les interprète dans deux directions principales. La première, c'est évidemment une manière d'exercer une pression extrêmement forte et performative, comme vous l'avez dit, sur les alliés. Parce que c'est quand même beaucoup plus facile de faire peur aux Européens et aux Canadiens que d'effrayer les Russes et les Chinois. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ça peut sembler très transactionnel de la part de Donald Trump. En réalité, ça s'inscrit dans une culture stratégique. Les États-Unis ont deux façades océaniques et le problème aujourd'hui pour eux, c'est de voir la montée en puissance de la Chine sur le plan balistique et nucléaire, de la Corée du Nord, donc sur la partie pacifique, et le rapprochement entre la Chine et la Russie, c'est-à-dire le fait que vous avez, et la Corée du Nord également, et l'Iran, le fait que sur la plaque eurasiatique, vous avez désormais une convergence de forces qui peut avoir, dans la culture stratégique américaine, l'idée un jour d'aller vers les États-Unis. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais c'est comme ça que résonnent fondamentalement les stratèges américains. Et il y a donc un paradoxe, c'est que l'Atlantique Nord va redevenir une sorte de zone de tension très, très forte. Pourquoi ? Parce que ce à quoi on se prépare avec l'ouverture de la route nord, c'est le fait d'avoir très régulièrement des bateaux chinois dans l'Atlantique Nord et des bateaux russes qui continuent à croître en nombre. Si la marine russe est défaite en mer Noire et en Baltique, elle ne l'est pas du tout à Mourmansk. Et donc il y a aujourd'hui à nouveau un sujet stratégique majeur, c'est-à-dire que les États-Unis redoutent le fait d'avoir à gérer une menace qui vient du Pacifique et une menace qui vient de l'Atlantique.
Donc c'est pas juste une lubie du nouveau président.
Non, pas du tout. Et à cela s'ajoute évidemment ensuite la dimension sur laquelle on a insisté, c'est-à-dire les ressources naturelles. Il n'y a pas d'opposition de principe chez Donald Trump et dans son entourage sur le fait d'exploiter les ressources de l'Arctique, du Groenland, du Canada, des États-Unis, de relancer la production de pétrole et de gaz à plein. Ça fait partie, je dirais, de son approche traditionnelle. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger la dimension purement stratégique qui nous semble très, très, pour nous, Européens, ayant une vision des relations internationales basée sur le droit public international, très surprenante et très dérangeante. En réalité, je pense que ces déclarations sont une sorte de relan, d'une certaine manière, de la culture stratégique américaine.
Donc pas dictée, en tout cas, uniquement par des considérations économiques. Bertrand Badie, est-ce qu'on peut parler d'impérialisme s'agissant de ces déclarations, de ces projets de Donald Trump?
Alors, vous avez raison, c'est un des éléments centraux de cet étrange débat qui surgit. Je voudrais tout de suite, non pas pour l'évacuer, parce que c'est très très important, mais c'est un peu en marge de notre sujet, dire un aspect qui a été assez peu mis en lumière, c'est que c'est aussi un effet du changement climatique. C'est-à-dire, le Groenland est en train de devenir une terre stratégique parce que ce n'est plus un bloc de glace. Et c'est un lieu de richesse et d'exploitation des ressources comme il n'était pas auparavant. Alors, c'est en marge de notre sujet, mais ça éclaire quand même bien des choses. Le deuxième élément, et ça, je me rapproche de votre question, c'est que, et on ne le dit pas suffisamment, deux pays de l'OTAN sont directement attaqués par M. Trump, à savoir le Danemark et le Canada. D'un certain point de vue, ça s'inscrit dans une dynamique qu'il faut suivre très attentivement, qui est la péremption de l'idée d'alliance, ou en tout cas d'alliance institutionnalisée, stable et pérenne. Hein, je ne dis pas la fin des coalitions, mais je dis des alliances institutionnelles, celles qui structurent durablement l'ordre international et dont ont résulté les blocs. Et ça, c'est quand même très très important pour la suite des événements. Troisième élément, et vous avez tout à fait raison de le dire, effectivement, on est dans une logique impériale. Et ce qui est tout à fait frappant, paradoxal, presque risible, prenez cela avec beaucoup de guillemets, c'est que M. Trump parle exactement le même langage à propos du Canada ou du Groenland que Poutine à propos de l'Ukraine, employant les mêmes mots, la sécurité. Pour notre sécurité, on a besoin du petit voisin, n'est-ce pas ? Que vaudraient désormais ces discours de menace à l'encontre de la Chine et de ses prétentions non réalisées, elles, sur Taïwan, lorsqu'on veut faire la même chose avec une autre île ?
Est-ce qu'on pourrait d'ailleurs imaginer, Bertrand Badie, que ça fasse l'objet d'une transaction entre Donald Trump et Vladimir Poutine ? Trump disant à Poutine, oh, ok, je te laisse tranquille avec l'Ukraine ou avec ce que tu as déjà conquis comme territoire, et si moi je m'empare du Groenland, puisque la Russie est quand même pas très loin de cette grande île.
Mais moi je n'y crois pas, parce que effectivement, nous parlons de logique transactionnelle, on voit bien que c'est effectivement dans la tête des dirigeants. Mais la logique transactionnelle, ça fait 80 ans qu'elle ne fonctionne plus dans le système international. Notre système international dit westphalien a été pendant des siècles transactionnel, et chaque guerre se terminait par une transaction. Vous avez vu, vous, une seule transaction depuis 1945 ? Non, c'est plus comme ça que ça se passe. Et puis il y a quand même autre chose, hein, on n'en a pas parlé. Il y a le Groenland, mais il y a les Groenlandais. C'est-à-dire, il y a quand même les populations, les sociétés qui ne sont plus ces éléments passifs lorsque, au XVIIe siècle, la Franche-Comté passait de l'Empire à la France. Les Franc-Comtois ne voyaient rien passer, ne réagissaient pas. Maintenant, c'est quand même tout à fait différent. Il faudrait quand même, si vous permettez, apporter deux, trois petites nuances. La première, Deux. Bon, d'accord. Transaction, ça, vous voyez. La première, c'est que avec Trump, il faut toujours faire la part du déclaratoire et du stratégique. On peut, et je rejoins ce que dit Thomas, trouver une stratégie. On peut aussi considérer que c'est un art oratoire, que c'est une façon de toucher et d'entretenir son socle. L'autre élément, puisque vous me privez du troisième, l'autre nuance qui est quand même très très intéressante, c'est que derrière cela, il y a aussi une mutation très très intéressante, qui est la mutation de l'idée de souveraineté. C'est-à-dire que Poutine, Xi Jinping et Trump piétinent l'idée de souveraineté qui est en train de se réincarner dans une conception autoritaire de la souveraineté et qui va de pair à travers ces discours avec une mutation de l'état de droit qui devient état tout court. Et ça, il faut faire très attention parce que les attaques sur l'état de droit, sur le marché politique français, vous entendez tous les jours. Et là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, mais finalement, le droit international, le droit des peuples, tout ça, mais c'est pas le problème. Toute dernière chose, c'est pas la troisième, c'est une phrase de conclusion, c'est de dire, attention, tout ça, ça marchait hier du temps d'arrière-grand-papa, ça ne marche plus aujourd'hui. Poutine, il a raté en Ukraine, il a complètement raté en Ukraine, il faut quand même le rappeler. Hein. Et Xi Jinping, il n'est jamais passé à l'acte à Taïwan, et à mon avis, mais là, je peux me tromper, il n'y passera pas, ces histoires-là, ça ne marchera pas. Et c'est tout.
Anne-Laure Bujon, ça fait des années qu'on explique que la politique étrangère américaine, elle se traduit notamment par une forme de repli. C'est-à-dire l'idée était plutôt de mettre l'Amérique en avant, mais sans avoir justement de velléité expansionniste. Est-ce que là, c'est pas un peu contradictoire avec les projets expansionnistes de Donald Trump? Ou bien est-ce qu'il y a une forme de cohérence, et on pourrait presque parler d'expansionnisme protectionniste s'agissant de la politique étrangère de Donald Trump? Un peu un oxymore, mais... Des fois, les oxymores veulent dire des choses.
Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Donc, cette politique America First, on sait effectivement que elle s'est adossée à un rejet des mauvaises guerres de Bush, de l'interventionnisme de ces années-là, qui a constitué à la fois un échec stratégique, qui a coûté très cher aux États-Unis, y compris en termes de crédit moral, et que donc Donald Trump, de ce point de vue-là, présente certaines continuités et avec Joe Biden et avec Barack Obama dans la manière dont il professe un relatif retrait ou repli des affaires du monde. Mais en fait, ce à quoi on a affaire avec ce néo-isolationnisme protectionniste qui mise quand même sur les outils de la puissance dure, hein, rester la première puissance militaire au monde, bien sûr, faire usage des guerres commerciales, mais aussi de l'outil de la monnaie, ce serait quand même un projet d'avoir l'Empire. Mais sans les responsabilités qui vont avec. Il n'est plus question... Thomas Gomard, tout à l'heure, a parlé des façades océaniques, et je pense que c'est très important dans l'histoire politique des États-Unis et dans leur culture stratégique, ce rapport à l'océan. Mais ce qu'il n'y a plus du tout, par exemple, avec un Donald Trump, c'est l'engagement des États-Unis à faire respecter la libre circulation sur les mers. On veut bien de la prédation des ressources naturelles, mais pas des responsabilités de l'Empire ou de l'hégémon bienveillant. Ce qui est très intéressant, c'est que il montre là une rupture avec ce qu'a été le consensus bipartisan depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, de l'internationalisme libéral, et on a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois à ce micro, mais il ramène les États-Unis à des époques antérieures de leur culture stratégique. Et ici, quand il vous parle à la fois du Canada et du canal de Panama, on pense évidemment à la doctrine Monroe et à cette idée que les États-Unis auraient une sphère d'influence, et je suis tout à fait d'accord que ça le rapproche d'un Xi Jinping ou d'un Vladimir Poutine, not in my backyard, quoi. Enfin, ça, c'est...
Et ça s'appelle de l'impérialisme ?
Oui, ça s'appelle de l'impérialisme, mais ça ne vient pas forcément avec l'intervention militaire armée. Et donc, je pense qu'il faut prendre ces menaces au sérieux parce que elles indiquent effectivement une volonté pour les États-Unis de développer des formes de national-capitalisme autoritaire, d'un capitalisme de la prédation et de la rente, de manière en fait complètement désinhibée, décomplexée, mais ça ne viendra pas avec le fait d'être le gendarme du monde ou de venir au secours de ses alliés. Donc oui, c'est de l'impérialisme, mais il prendra pas forcément le visage de la conquête militaire, parce qu'il y a bien d'autres manières d'être impérialiste aujourd'hui.
Alors Marc Lazare, évidemment, ces déclarations de Donald Trump, c'était lors d'un point presse dans sa résidence de Mar-a-Lago, ça fait réagir notamment en Europe, porte-parole du gouvernement français qui parle justement d'une forme d'impérialisme. Il y a aussi une réaction du côté de l'Italie, Giorgia Meloni, qui explique qu'il ne faut pas s'en inquiéter, parce que ce que dit Trump, ça s'adresse moins à ses alliés européens qu'à de grandes puissances, et elle cite notamment la Chine. Est-ce que vous pensez que les Européens, effectivement, comme le dit Giorgia Meloni, ne devraient pas s'inquiéter outre mesure de ces déclarations de Donald Trump?
Je crois qu'il y a plusieurs points. D'abord, pour revenir un peu sur ce dont on vient de parler, je crois qu'il y a cette dimension stratégique qui a été précisée par Thomas Gomard. Je crois qu'il y a aussi une dimension idéologique très forte. C'est-à-dire qu'on peut interpréter aussi America First comme le retour de l'Amérique, pas simplement au sein des États-Unis, mais dans le monde. Make America Great Again. Et il y a une dimension idéologique très très forte qui, y compris, se traduit par un certain type de vocabulaire. Par exemple, il ne veut plus parler du golfe du Mexique, mais le golfe d'Amérique, effectivement. Donc on a cette idée, l'Amérique est de retour dans le concert mondial, mais en bouleversant de ce point de vue-là l'ordre mondial. Deuxième point, je crois que c'est indissociable, cette dimension idéologique, de l'offensive de cette nouvelle administration qui n'est pas encore en place, mais qui agit comme si elle était déjà en place, de ce que fait aussi Musk, et notamment des ingérences par rapport aux questions européennes. Troisième point...
On pourrait presque parler d'impérialisme idéologique, alors?
En tout cas, il y a une offensive idéologique. Une offensive idéologique et qui n'est pas n'importe laquelle. Elle est politique, reliée par le monde de la technologie la plus avancée en termes de communication mais aussi en termes de satellites, c'est le projet d'Elon Musk, et puis aussi cette pression sur l'OTAN, ça a été rappelé par Bertrand Badie, avec quand même un impératif qui est annoncé, tous les pays de l'OTAN devront dépenser 5%, et là j'en viens aux 5% de leur PIB pour les questions militaires, ce qui est une énorme pression sur les pays de l'Union européenne, qui jusqu'ici, la France, je crois que c'est 1,5%, je parle sous le contrôle. 2%, pardon, par exemple, 2% en Italie, 1,4%. Donc, on voit ce que ça va signifier pour l'Europe. Alors, le rôle de Giorgia Meloni est tout à fait intéressant parce qu'elle est allée à Mar-a-Lago pour immédiatement, enfin très rapidement, sans en avertir d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères qui appartient à Forza Italia, M. Tajani, et notamment pour essayer de régler cette question de cette journaliste italienne qui avait été détenue en Iran et dont elle a obtenu d'ailleurs la sortie, ce qui fait qu'elle bénéficie actuellement d'une sorte d'état de grâce en Italie. C'est effectivement très important parce que qu'est-ce que vont faire les Européens ? Et les Européens, manifestement, sont divisés. On voit qu'il y a un certain nombre de dirigeants européens, en particulier Orban, totalement alignés sur les positions de Trump, qui vont profiter de Trump, me semble-t-il, pour essayer justement de réduire le processus d'intégration européenne. Ça, c'est un élément tout à fait important. Je remarque que la Commission européenne a été caractérisée par une très grande prudence par rapport à, notamment aux déclarations de Elon Musk. Ursula von der Leyen, alors certes, elle a été malade et donc elle n'était pas en état de répondre, mais jusqu'ici, la Commission européenne a un profil bas pour essayer de ne pas mettre de l'huile sur le feu. La position française s'est exprimée de manière très ferme, à la fois par le président de la République et par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, en disant que c'était inacceptable et qu'on ne pouvait pas continuer à ne rien dire. Mais la France est pour le moment isolée. Ça a été la même position du chancelier allemand qui lui-même est en très grande difficulté puisqu'il y a des élections européennes. Et donc l'un des personnages clés, l'un des acteurs clés plus exactement, c'est Giorgia Meloni. Giorgia Meloni qui essaye de faire le pont, qui est à la fois pro-américaine, pro-atlantique, dans la grande tradition de la politique étrangère italienne, qui se rapproche de Trump tout en ayant eu des bons rapports avec Biden, qui est très proche d'Elon Musk, qui se reconnaît dans les positions idéologico-politiques à la fois de Trump et de Musk, qui ne peut pas aller non plus trop loin dans cette direction pour deux raisons. La première, c'est les mesures de taxation que pourrait prendre l'administration américaine qui pénaliserait l'économie italienne, et d'autre part parce qu'elle veut en même temps jouer un rôle dans l'Union européenne. Et donc le rôle qu'elle va essayer d'interpréter, c'est ce rôle d'intermédiaire entre Donald Trump et l'administration américaine, la nouvelle administration américaine qui se met en place le 20 janvier, et l'Union européenne pour renforcer encore son poids au sein de l'Union européenne en profitant de l'affaiblissement de Berlin et de Paris.
Bertrand m'a dit, on a l'impression qu'une partie de l'Europe est tétanisée par rapport justement à cette, à ce qui va devenir aux États-Unis avec et Trump et Musk.
Alors c'est un des deux points que je voulais mettre en évidence. Vous avez tout à fait raison. Ce qui se passe, c'est que on voit apparaître une drôle de carte de l'Europe où il y a au moins quatre forces qui ne peuvent pas travailler ensemble. Vous avez d'abord des États, des gouvernements, des partis qui sont en même temps atlantistes, comme le disait Marc, pro-américains et autoritaires, donc qui sont séduits par la personnalité de Trump. Et là, Giorgia Meloni, c'est vraiment l'exemple type. Vous avez, deuxième catégorie, et c'est pas la même chose, des régimes autoritaires, identitaires, tout ce dont on parlait tout à l'heure, mais qui penchent plutôt du côté de la Russie. Oui. C'est le cas de Monsieur Orban. Et de ce point de vue-là, la posture de ce que peut être celle d'un Orban et celle d'un Meloni ne seront pas la même face à l'éventualité de cette tension. Vous avez ensuite des pro-atlantistes libéraux, c'est plutôt le modèle allemand, si vous voulez, c'est-à-dire le parapluie allemand, mais au nom d'un modèle libéral, et ces gens-là ont peur de Trump et surtout d'Elon Musk, on l'a vu récemment avec les réactions du chancelier allemand, et ça va même jusqu'à atteindre la Grande-Bretagne hors de l'UE. Et puis vous avez une troisième tendance, alors qui est assez mal défini, qui est plutôt pour une sécurité européenne d'abord. Ça va du modèle espagnol au modèle français, ce qui n'est pas non plus tout à fait la même chose dans la conception. Donc comment voulez-vous que ces quatre, voire cinq courants puissent travailler ensemble? Et effectivement, elle était peut-être malade, Madame von der Leyen, mais enfin, je crois pas que d'avoir une sale grippe empêche de passer des communiqués, là-bas. Bon, ça, c'est un premier point. L'autre point, et je rejoins tout à fait ce que disait Anne-Lorraine, c'est je crois qu'effectivement, c'est une rupture profonde avec le néoconservatisme, c'est-à-dire que même si Trump et George W. Bush étaient du même parti républicain, là la philosophie est tout à fait différente, mais ça va encore plus loin que la disparition de l'image du leader bienveillant, ou en tous les cas du gendarme du monde, parce que c'est aussi l'idée de protecteur qui se trouve quelque peu remise en cause. C'est-à-dire, que pense-t-on quand on est au Caire, à Abu Dhabi, ou je ne sais où encore, de l'évolution de cette politique américaine, voire même à Tel Aviv, hein. Et derrière ça, il se passe quelque chose qui peut se retourner contre les États-Unis, qui est que devant cette incertitude que représente le parapluie américain d'autrefois, les pays du Sud ont tendance à prendre le large, à s'inscrire et se réfugier dans une fluidité diplomatique, à aller chercher du côté du meilleur offrant. Vous avez un pays qui est archétypique de ce point de vue-là, c'est les Émirats Arabes Unis, où on essaye avec tout le monde, voilà, autant avec Moscou qu'avec Pékin, qu'avec Washington, qu'avec Paris, c'est absolument extraordinaire. Or, face à ce jeu-là, la main des États-Unis dans le jeu international sera de moins en moins puissante parce que la capacité de contrôle de la diplomatie dite hégémonique s'en trouve réduite.
Thomas Gomard ?
Oui, peut-être trois points complémentaires. Vous avez souligné le fait que les Européens sont tétanisés. Je pense qu'ils le sont parce que c'est un changement de règles, d'abord à leurs dépens. Et le fait en plus que ça concerne le Danemark, qui est un des pays les plus atlantistes au sein de l'Union européenne, qui va exercer la présidence de l'Union européenne au deuxième semestre 2025. Bon, c'est déjà une présidence complètement happée d'une certaine manière par cette question. Mais même au niveau national, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est l'absence de réaction ou de travail analytique par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Alors, on a eu le discours du président de la République devant les ambassadeurs, qui a parlé d'international réactionnaire. Mais moi, je serais quand même très, très intéressé de savoir ce que messieurs Mélenchon, Faure, Attal, Philippe, Ciotti, Bardella pensent de ce qui se passe, en fait. C'est-à-dire qu'on, c'est très frappant de voir qu'on a un débat national qui porte sur suspension, abrogation de la loi des retraites par rapport aux transformations fondamentales qui sont à l'œuvre, je dirais, sur le plan international et qui ne sont absolument pas analysées, en réalité, par les prétendants à la présidence de la République. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a une hypothèse pour aller dans le sens de Bertrand, mais en m'arrêtant en chemin, qui a été formulée par Olivier Schmitt, qui est chercheur au Danemark, précisément, qui se demande si l'OTAN n'est pas en train de devenir une sorte de pacte de Varsovie, c'est-à-dire un usage par la puissance principale de coercition systématique qui fait que, au fond, les Européens peuvent se retrouver très vite dans la situation où, au nom de leur sécurité, ils vont devoir abdiquer tout leur discours sur les valeurs. C'est peut-être ça, en fait, qui est en préparation, une sorte de raquette stratégique, là aussi, pour reprendre une formule d'Olivier Schmitt. Pardon. Et le troisième point, c'est qu'il y a peut-être une réflexion à avoir. Anna Arendt parle de l'impérialisme continental dans les origines du totalitarisme en évoquant le panslavisme ou le pangermanisme comme des éléments de revanche historique. Hein, c'est le cas aujourd'hui très clairement de la Russie de Vladimir Poutine qui est dans une sorte de volonté de réparer ce qu'il considère être comme un désastre historique. Je pense qu'avec Donald Trump, c'est d'une toute autre nature, c'est-à-dire que c'est un impérialisme technologique assumé qui, d'une certaine manière, a toujours existé au sens où il était confortable, mais il devient maintenant, il va falloir pour en profiter, c'est-à-dire qu'il considère que les Européens en profitent, il va falloir payer. Voilà. Et ça, je pense que c'est tout à fait nouveau parce que c'est, d'une certaine manière, un effet de dévoilement sur la multiplication des dépendances que les Européens ont acceptées, notamment avec les technologies.
Alors, Anne Bujon.
Oui, ben deux petits points vraiment en réaction, en complément à ce qui vient d'être dit, parce que oui, c'est vrai qu'il y a une profondeur stratégique dans ces déclarations de Donald Trump, et je pense que c'est aussi, il faut y voir le reflet du fait que depuis 8 ans, il y a des gens qui ont travaillé à construire le trumpisme. Donc il y a maintenant un courant national conservateur, il y a des think tanks à la journée qui a eu lieu à l'IFRI, le programme États-Unis de cette année à l'IFRI, c'était vraiment très intéressant de voir qu'il y a des think tanks, il y a des conseillers de politique étrangère qui développe maintenant cette politique. C'est pas juste Trump et ses rodomontades. Mais, d'un autre côté, Trump reste quand même Trump. Et donc, il y a l'effet aussi battleur de foire. Et je crois qu'il faut rappeler que dans ce discours, il y a aussi tout simplement l'adoption du discours de l'entreprise. Son programme, c'est un programme de fusion-acquisition. Hein, c'est très, très simple. Et effectivement, la question, c'est qui paye, finalement, qu'on parle de l'Ukraine ou qu'on parle du Canada. Il vous présente une facture. Il faut savoir combien ça coûte et qui paye. Pareil pour le département de l'efficacité gouvernementale. Donc, il y a cette imprégnation du discours de l'entreprise. Et puis, il y a le langage de la mafia. Enfin, Thomas Gomard vient de nous dire « raquette ». Oui, ben oui, c'est un raquette. Donc, protection contre paiement. C'était le directeur du FBI hein, qui avait dit pour comprendre la pratique du pouvoir de Donald Trump, il faut revenir au film de mafia. Et je pense que c'est tout à fait juste. L'autre point, je crois qu'il faut souligner, c'est le point auquel, en effet, nous avons basculé dans un autre monde et il faut résolument changer de manière de le considérer. Donc, il y a des éléments de continuité, évidemment. Mais on voit que vous nous avez demandé, est-ce que c'est de l'impérialisme ? Oui, mais le vocabulaire de l'anti-impérialisme traditionnel est très inefficace pour décrire ce nouveau mot, ce nouveau monde dans lequel il va falloir aussi défendre nos intérêts contre un Donald Trump.
Voilà, ça suppose une incognita. Oui. On est dans une terra incognita, dans une terre inconnue. Wow. Je pense qu'il y a beaucoup de nouveautés.
Parce qu'on ne sait pas où regarder, sinon c'est pas aussi inconnu.
Non, il y a incontestablement une nouvelle phase. Et juste pour terminer, pour faire le lien avec ce qu'on a dit, y compris par rapport au RN et ce qui avait été dit sur le Trumpisme, le modèle du Trumpisme, c'est cette alliance politique avec la haute technologie et une sorte de nouvelle bourgeoisie qui adhère à ça contre les bases classiques de la démocratie libérale et représentative. Et donc en Europe, on va voir si les différents différentes formations de droite radicale vont s'aligner là-dessus. Et moi, je vois qu'effectivement, il y a des signaux qui sont envoyés, notamment de la part de Bardella, vers les, y compris les gens des plus hautes sociétés du CAC 40.
Hein. Disruption.
Ça nous promet de belles discussions pour les prochains dimanches. Merci Thomas Gomard, Anne-Lorraine Bujon, Marc Lazare et Bertrand Badi. Merci à Anne-Claire Bazin qui a préparé l'émission, à Luc-Jean Reynaud qui l'a réalisé. À la prise de son aujourd'hui, il y avait Dalia.